Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis,
avec à la réalisation Elliot Hugo Mauzin. En France, comme dans d'autres pays du monde, nombreuses sont les associations humanitaires qui poursuivent l'objectif d'aider les populations qui en ont besoin, qu'elles se trouvent en France ou à l'étranger. Le plus souvent, il s'agit de fournir de l'assistance aux personnes pauvres, aux sinistrés, aux victimes de conflits armés ou encore aux victimes de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, sur les 1,3 million d'associations recensées en France, plus de 60 000 œuvrent dans le secteur humanitaire, social et de la santé. L'Afrique est un continent contrasté où la majorité des pays sont encore en développement et où de nombreuses associations humanitaires européennes s'investissent pour apporter une aide souvent locale et ciblée à des villages, des groupes ou des catégories de personnes en difficulté. Derrière le terme « association humanitaire en lien avec l'Afrique » se trouvent des réalités très concrètes. Éducation, santé, sécurité alimentaire, protection de l'environnement, développement économique. Les enjeux sont multiples et les besoins réels. Mais la création et le fonctionnement de telles associations ne s'improvisent pas. Et au-delà des aspects techniques et administratifs, il faut se garder de toute approche paternaliste qui consisterait à apporter une aide que nous pensons utile à des personnes sans les avoir préalablement consultées. Une association humanitaire est utile quand ses actions sont conçues avec des partenaires locaux, qu'elles répondent à un besoin réel et qu'elles s'inscrivent dans une continuité. Il s'agit de créer des passerelles et des liens respectueux entre innovation et tradition africaine, entre Europe et Afrique, entre société, culture et technologie. Il s'agit d'accompagner et de connecter les communautés pour qu'elles deviennent autonomes et actrices de leur propre réussite. Aussi ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir de nouveau Annelise Chalamon, spécialiste du Burkina Faso et présidente des associations Toriaba et Synergie Burkina, qui viennent en aide aux personnes vulnérables au Burkina Faso. Et avec elle, nous allons voir comment se construit et se vit un partenariat entre des associations burkinabées et françaises. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale pour écouter Nini Togo de Flobi.
Bonsoir.
Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau dans cette émission où vous avez été plusieurs fois invitée parce que vous êtes une spécialiste du Burkina Faso. Alors on va vous redemander la question classique, pourquoi cet intérêt pour ce pays, quel est votre parcours, votre démarche et tout ce qui vous a conduit à finalement devenir burkinabé.
Alors déjà, j'avais un père qui était fou d'Afrique. pas au sens colonialiste, mais c'est un continent qui le fascinait. Par-dessus, il y a le diocèse de Nice qui est jumelé depuis plus de 60 ans avec un diocèse du Burkina Faso, ce qui fait que tous les étés, nous voyons des prêtres burkinabés qui viennent en France, dans les Alpes-Maritimes, soulager nos prêtres. Le premier voyage que j'ai fait là-bas, je suis tombée dedans. Je ne peux pas expliquer pourquoi, parce que j'ai fait la Namibie, j'ai fait Madagascar, j'ai fait le Sénégal, le Bénin. Je suis tombée dedans. J'ai travaillé 11 ans pour le consulat du Burkina Faso de Nice. Et par ce biais, j'ai pu avoir des contacts avec le consulat général à Paris, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts et je les ai d'ailleurs gardés. Et lors d'une discussion, je discute avec le consul général et je lui dis « Mais le Burkina, je suis chez moi, je ne peux pas vous expliquer comment. » Et je raconte aussi des contacts, des rencontres que j'ai faites qui sont totalement anormales, dont l'une avec un vieux chef coutumier, ancien tirailleur sénégalais, qui était avec mon père en Indochine. Donc c'est pour ça que le consul m'a dit « Mais tu es burkinabé. » Et c'est vrai que chaque fois que je vais là-bas, je suis chez moi, je ne peux pas l'expliquer.
Et est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où vous y êtes allé ?
Oui, j'ai fait ma 44e mission en février et j'y vais depuis 20 ans. On a fêté en février les 20 ans de ma venue au Burkina.
C'est impressionnant. Et on a une idée du Burkina qui vous allez éclairer, puisqu'on a effectivement peut-être des a priori. Comment vous faites sur place au niveau sécurité, au niveau contact ? C'est pas toujours simple.
Alors, 44 voyages, ça permet d'avoir un agenda et un carnet d'adresses quand même très impressionnant. Il faut savoir aussi que ce qu'on raconte ici, il ne faut pas trop le croire. Effectivement, il y a des problèmes de terrorisme sur les frontières avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Mais au centre du Burkina, il n'y a aucun problème. Ensuite, moi, je ne circule jamais seule. J'ai quand même le même chauffeur depuis 15 ans, que je connais très bien, qui est très protecteur. Et il ne m'amènerait jamais dans un endroit où il y aurait le moindre souci, le moindre danger, et je ne me suis jamais sentie en insécurité dans les endroits où je vais. Mais je ne m'amuse pas à m'approcher des frontières.
Donc vous êtes présidente de l'association Toriyaba, dont nous allons parler ce soir, et aussi d'une association de type fédérative, Synergie Burkina, qui relie de nombreuses associations au Burkina en Europe et qui se mobilise pour venir en aide aux personnes vulnérables du Burkina Faso. Donc nous allons détailler plus en détail leurs missions respectives, mais en deux mots, est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont leurs ressemblances, leurs différences ?
Alors l'association Toriyaba, qui se trouve basée à Saint-Vallier, est, je dirais, une association lambda, classique, qui a des projets pour des personnes vulnérables, etc. Elle est adhérente de l'association fédérative Synergie Burkina, qui, elle, n'a pas de projet propre, mais aide les projets de ses adhérents, où on est à peu près 80. Et c'est un centre d'entraide, formation, information. C'est donc très différent, mais parfaitement complémentaire.
Et donc, elles sont effectivement en association, comme on le verra tout au long de l'émission. Et à travers ces activités, c'est vrai que nous souhaitons aborder un thème qui est le rapport entre les aidants occidentaux et les aidés, entre guillemets, autochtones, et le regard des occidentaux sur ces pays qui fait partie des pays en voie de développement. Est-ce que vous pourriez nous préciser si, à votre avis, votre action, c'est de l'aide humanitaire, c'est de l'aide au développement ? C'est aussi du partenariat, c'est de l'entraide. Est-ce qu'une de ces étiquettes vous correspondrait mieux ?
Moi, je dirais que d'abord, c'est une connaissance réciproque et une très grande amitié. Parce qu'au bout de 20 ans, il y a quand même des personnes, on connaît bien, on connaît toute la famille. Certaines sont venues en France, d'ailleurs. Alors oui, il y a de l'aide au développement, oui, il y a de l'aide à l'alimentaire, à la santé, etc. Mais par-delà, j'estime le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Et se connaître très bien pour savoir de quoi l'autre a besoin, et lui, il va être capable de dire non, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est vraiment un partenariat amical, chaleureux, et je tiens beaucoup à ça.
Donc on va préciser un petit peu pour nos auditeurs ce qu'est le Burkina Faso, donc la patrie des hommes intègres, comme on l'a appris précédemment avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation globale ? Alors, sur tous les aspects que vous souhaitez, historiques, démographiques, on va commencer par la localisation. C'est en Afrique de l'Ouest ?
C'est en Afrique de l'Ouest, c'est à côté de la Côte d'Ivoire. C'est un pays malheureusement enclavé. Je dis malheureusement parce que faire du commerce au niveau économique, c'est très difficile avec un pays enclavé qui n'est pas proche de la mer. Il est entouré de 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Ghana, le Togo, le Bénin, pas forcément dans l'ordre. Et il y a toujours, parmi ces pays, et depuis que je connais le Burkina, il y en a toujours un ou deux qui ont des soucis. Donc ça donne un pays qui a beaucoup de difficultés à trouver une stabilité, parce que dès qu'il y a un pays qui a un problème, eh ben, il reçoit tous les migrants, etc.
Et il y a des incidents aux frontières.
Voilà, absolument. C'est grand comme la moitié de la France, hein, c'est à peu près exact, avec 62 ethnies. Alors, une ethnie, ici, ce n'est pas un terme qu'on connaît en France, ça veut dire un groupe de population qui a une langue, une culture. Alors, la culture, ça va de accueillir un enfant qui vient de naître, dire adieu à un vieux qui vient de partir, ce que l'on mange, toutes les traditions qu'il peut y avoir. Et il y a 2-3 ethnies qui sont en train de mourir, et donc c'est toute une culture qui va s'effondrer. Voilà, 62 langues dans la moitié de la France.
62 langues, mais pas 62 officielles, 62 utilisées. En officiel, il y en a 4, c'est cela ?
Oui, vous avez le français, vous avez le dioula, qui est la langue du commerce, vous avez le moré, qui est la langue des Mossé, qui est tout simplement l'ethnie la plus importante, et le fufuldé, qui est la langue des Peuls. Les Peuls, on va dire que c'est un peu les cousins des Touaregs.
On a parlé de la superficie. Au niveau de la démographie, quel est le nombre approximatif de la population ?
Alors actuellement, il y a entre 24 et 25 millions d'habitants. Alors ça paraît peu, si on multiplie par deux, on est largement en dessous de la France, mais c'est énorme parce que c'est vraiment exponentiel. Tous les ans, il y a 1 à 2 millions de plus.
Donc énormément de jeunes en fait.
Ben voilà, 72% de la population a moins de 35 ans et l'âge médian est de 18 ans. L'espérance de vie de 61 ans, ce qui est bien parce qu'avant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 54-56 ans. Et par contre, les 0-18 ans, c'est plus de 56% de la population.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme.
Les jeunes, donc c'est des besoins en santé, en travail, et on y reviendra un petit peu plus après. Et donc, pareil, vous indiquez un nombre de population, une surface, mais tout n'est pas habitable de la même façon. Il y a la brousse, il y a les grandes villes. Là aussi, la répartition n'est pas la même selon les endroits.
Alors, il y a assez peu de grandes villes. Alors, sur 28 villes que j'ai pu voir, il y en a 16 qui ont moins de 70 000 habitants. Alors, comme grosse ville, vous avez Ouagadougou, plus de 3 millions d'habitants, c'est la capitale. Vous avez Bobo-Dioulasso, capitale économique, à peu près 1 million d'habitants. Et après, tout de suite, on descend. 70% à peu près de la population vit encore dans les villages, avec un peu d'élevage, après une agriculture de subsistance. Voilà, il s'y fait qu'ils ont du mal à évoluer. Parce qu'il y a le poids de la tradition. Le père du père de mon père faisait comme ça. Je ne vois pas pourquoi toi, la blanche, tu viens me dire de faire autrement.
Et est-ce qu'il y a une forte migration de ces villages vers la ville ou c'est assez constant ?
Non. Écoutez, vous m'auriez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais encore dit que 80% des gens vivaient dans les villages. Donc, comme il n'y a pas assez de travail, vous avez encore des familles dans les villages qui ont 6-7 enfants. Il n'y a pas de la terre pour tout le monde, donc ils vont en ville. Le problème en ville, c'est qu'ils survivent parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Il n'y a que 55% d'enfants qui sont scolarisés. Et même une fois qu'ils sont scolarisés, ils ont passé le certificat d'études, ils ont eu 13-14 ans, ça ne leur donne pas un métier. Soit dit en passant, c'est aujourd'hui qu'ils passent tous le certificat d'études et le BEPC. Alors je leur souhaite bon courage.
Effectivement, les nôtres sont dans Parcoursup, c'est totalement différent. Donc le régime politique actuel, bon, on parle d'une démocratie avec un président élu, mais en fait actuellement il y a un chef de junte qui est au pouvoir après un coup d'État, Ibrahim Traoré. Quel est son programme ? Quelle est sa façon de gouverner actuellement ? Comment les gens se sentent dans ce type de gouvernement ?
Alors la démocratie, il faut savoir que c'est quand même un système politique qui a été imposé par l'Europe en Afrique, alors que traditionnellement, ils ont des rois et des chefs coutumiers très forts, qui ne sont pas du tout élus, qui sont choisis au milieu de clans suivant des traditions. Et eux, ils ne cherchent que justement quelqu'un, même si c'est quelqu'un de détestable, ils aiment avoir un État fort. Alors Ibrahim Traoré est arrivé le 30 septembre 2022, après un autre en renversant un autre militaire qui lui cherchait toujours plutôt à se remplir les poches, mais les gens l'ont bien accueilli. Celui qui avait avant, il avait quand même un salaire de 10 000 euros, moi ça m'a fait bondir, et quand j'ai posé la question là-bas, ils m'ont dit mais s'il avait obtenu des résultats, on se serait dit c'est mérité. on n'a pas la même culture.
Pas du tout.
Et... Alors que le capitaine Traoré, il est arrivé en disant « Moi, je garde mon salaire de capitaine. » Ah, ben ça nous changeait. Hein, pour une fois, quelqu'un ne venait pas faire de l'argent. Alors, c'est un militaire, mais c'est un bâtisseur. Vous verriez le Burkina tel qu'il est actuellement, il a, je dirais, donné un coup de pied dans le derrière à beaucoup de gens pour pouvoir se mettre au travail. Je vous jure qu'un ami qui est chef de service m'a dit en rigolant « Il a fallu aller chercher des chaises. » Parce qu'il n'y avait jamais toute l'équipe des fonctionnaires en même temps. Donc il fait la chasse à la corruption. Il ne laisse en fait rien passer. Mais les gens sont contents. Alors bien sûr, il y en a qui disent oui, on ne peut pas dire ce qu'on veut dans les médias, etc. Mais d'abord, la population là-bas, personne ne lit les journaux. Il faut le savoir. On lit plutôt Facebook ou Instagram. Mais les gens sont contents parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « ce qu'il dit, il le fait ». C'est vrai que Ouagadougou, qui était un endroit avec des marchés partout, avec des rats, avec des enfants qui étaient dans les ordures et les cloaques, et il a viré tout le monde parce qu'il n'avait pas à être là. Et puis, il a organisé quelque chose qui s'appelle Faso Mebo, la construction du Faso, la construction du pays, où, soit sur la base du volontariat, soit quand on a créé un problème, et ben les gens viennent créer des plaques de ciment pour pouvoir paver tous les trottoirs. Tu as grillé un feu rouge ? Parfait. 8 jours, tu vas faire ça.
C'est les travaux d'intérêt général ?
Voilà. Mais les associations peuvent librement venir. On peut faire un don pour acheter du ciment ou acheter de la nourriture pour ceux qui travaillent. J'avoue, puisque j'ai la nationalité burkinabé, que j'ai envoyé de l'argent pour acheter du ciment. On joue le jeu. Et c'est vrai que du coup, la capitale est en train de s'assainir.
D'accord, ça c'est une chose positive. Justement, on aimerait savoir quels sont les besoins spécifiques de ce pays, parce qu'on parle de personnes vulnérables. On avait évoqué précédemment effectivement les jeunes, les femmes enceintes ou mères célibataires. Mais globalement, comment vous apportez une aide spécifique ? Enfin, pourquoi vous apportez une aide spécifique à des personnes ? Quels sont leurs besoins exactement ?
Alors, chaque association a ses projets. Il y en a quelques-unes qui se focalisent sur un village dans lequel ils vont construire l'école, ils vont forer des puits, etc. Nous, à Toriyaba, c'est une autre vision, c'est-à-dire que comme je connaissais déjà pas mal le pays, on s'est focalisé sur les personnes les plus vulnérables. Mais vraiment... On aide des filles mères. Ces filles mères, ben, elles n'ont pas fait des galipettes. Elles ont tout simplement, à 12-13 ans, été violées par quelqu'un de la famille. On a essayé de les tuer parce que c'est une tâche sur la famille. On les vire. Alors, à 12-13 ans, elles sont enceintes jusqu'aux yeux dans la rue. Elles accouchent seules. On leur vole le bébé. Et donc, on aide une association qui les prend en charge. Donc, on envoie l'argent pour qu'elles puissent manger à leur faim. On envoie l'argent du tailleur pour leur apprendre un métier, etc. C'est redonner un peu de dignité à ces femmes. Alors, on ne travaille pas de manière directe avec ces filles mères. Ça serait ridicule, on n'est pas sur place. Donc, dans tous nos projets, on aide une association, d'où ce côté partenariat amical et vraiment d'une amitié réciproque. On aide une association qui, elle, sur place, va aider les filles mères ou les trieurs d'ordures, etc.
Voilà, donc on évoque les filles mères ou mères célibataires, les trieurs d'ordures. Il y a beaucoup de mendiants. Ce sont ça les populations vulnérables les plus...
Alors, les mendiantes, c'est des enfants.
C'est des enfants.
Oui, alors, il y en a plusieurs, mais enfin, il y en a une bonne partie, c'est ce qu'on appelle les garibous ou les talibés, c'est-à-dire que ce sont des enfants, les parents envoient dans une école coranique, et normalement, ils doivent avoir des cours le matin, de Coran, et l'après-midi, aller mendier pour leur apprendre l'humilité. En fait, dès le matin, on les envoie pour pouvoir mendier, et s'ils ne ramènent pas un minimum d'argent, ils sont battus. De toute façon, c'est le gouvernement fait la chasse, justement, à ces maîtres coraniques, qui sont des tyrans, et qui n'ont aucun intérêt. Et du coup, au bout d'un moment, ben, les gosses, ils s'en vont, parce que quitte à mendier, ben, ils préfèrent mendier pour eux, et comme ça, au moins, on ne leur tape pas dessus. Après, ce qui est très inquiétant, vous commencez à avoir, depuis plusieurs années, des filles. Et ces filles, elles fuient les mariages forcés. Quelquefois petites. Puis vous en avez où c'est des femmes qui sont fichues à la porte parce que monsieur est décédé, etc. Et elles accouchent dans la rue. Parmi des enfants que l'on parraine, il y en a un petit, je l'ai rencontré, il avait 5 ans, il avait ses dents de lait, il était incapable de dire d'où il venait. Il a fallu qu'il aille à l'école et qu'il parle français pour qu'il puisse nous dire qu'il ne savait pas où était le village. Et on a compris que la maman était morte dans la rue.
D'accord. Et voilà. Donc il a été...
Et lui, il a été récupéré, oui, donc, par un centre où on parraine des enfants. Mais cet enfant ne savait même pas d'où il venait et on ne comprenait pas sa langue. Donc on pense qu'il venait d'un pays étranger.
Donc par rapport à ces populations, par rapport à ces particularités, je voudrais avoir votre avis, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, sur le regard que portent les Européens sur le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest en général. Parce qu'il y a une telle différence de culture, vous avez répondu à un point très important en disant que vous n'agissiez pas directement, mais avec des associations. Mais est-ce qu'il n'y a pas un énorme décalage en ce que nous, on perçoit en tant qu'étrangers, bon, vous, vous ne l'êtes plus, et la réalité sur place?
Alors, les deux, trois premiers voyages que j'ai fait là-bas, quand je suis revenue, je ne savais plus où étaient mes casseroles. Et je me rappelle, après le premier voyage, j'ai ouvert le robinet d'eau chaude chez moi et j'ai regardé couler. Parce que là-bas, c'était tellement compliqué d'aller avec le seau chercher de l'eau, il n'y avait pas d'eau chaude, bien sûr, que je me suis dit, mais pourquoi on se plaint en France? Alors, il faut savoir aussi que beaucoup, je dirais même la majorité des associations humanitaires pour le Burkina Faso ou d'autres pays, sont des gens de ma génération, c'est-à-dire des plus de 65 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a connu, beaucoup d'entre nous ont connu l'Afrique quand ils étaient petits. Et quand on passe son enfance quelque part, eh ben, la moitié du cœur y reste. Tandis que les moins de 50 ans, l'Afrique, ça leur dit rien. Et c'est le gros problème justement de ces associations, il n'y a pas de relève. Je le vois à travers mes enfants qui sont bienveillants, qui m'aident dans l'association, il n'y a pas de souci. Mais l'Afrique, ça ne leur dit rien. Pour eux, quand on demande aux gens que c'est quoi l'Afrique, oh ben, ce sont une multitude de pays qui passent leur temps à se taper dessus et à s'entretuer. Point final. Or, l'Afrique, c'est autre chose.
Heureusement. On a évoqué aussi tout à l'heure le fait que ce qu'on nous racontait sur la situation dans le Burkina n'était pas tout à fait exact. Quel est votre avis sur les médias sur place ou sur ce qu'ils nous rapportent de ce qui se passe là-bas?
Il faut savoir que alors, les principales médias qui s'intéressent à l'Afrique, c'est-à-dire Le Monde, France 24, RFI, Jeune Afrique, etc., n'ont plus droit de citer au Burkina Faso parce que, eh ben, ils ont critiqué, ils ont raconté tout un tas de choses sans forcément vérifier. Donc, ce sont eux qui continuent de parler du Burkina Faso, où on parle de la junte, et je ne suis pas d'accord avec ce terme, tout simplement parce que dans le gouvernement, vous avez le Premier ministre est un civil, et parmi tous les ministres qu'il y a, il n'y a que trois militaires. Tout le reste, ce sont des civils. Alors, est-ce qu'on peut parler de junte?
C'est par rapport à la notion de coup d'État qu'ils ont tendance à raisonner comme ça.
Voilà. Mais tout le monde continue à parler de junte. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et le Premier ministre est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le premier, non. Mais celui-là est très bien. Il est pragmatique. Il est, je veux dire, le pays avance. Et le président, puisqu'il est président, le capitaine Traoré, que l'on appelle Ibé. Ibrahim, Ibé, n'est pas toujours en train de le contrecarrer, etc. Donc, chaque fois que j'entends parler de junte, ça me fait un peu grincer. Mais, si je peux me permettre de vous citer un exemple qui m'a fait un peu bondir. L'an dernier, avant fin septembre, j'entends parler sur une radio qu'il y a eu l'armée burkinabé qui est rentrée en contact avec des terroristes dans le Sahel et qu'il y a eu plusieurs dizaines de morts. Alors déjà, plusieurs dizaines de morts, ça va de 20 à 99. Et puis c'est tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, que l'armée, elle est nulle. Je vais là-bas, intriguée, et je pose des questions, mais pas à n'importe qui, hein, à des hauts fonctionnaires, à un maire, etc. Il me dit, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, il y a eu, dans le Sahel, un gros rassemblement de terroristes. Ça arrive quelquefois, mais c'est plusieurs milliers. Hein. Et l'armée le savait, parce que le renseignement fonctionne très bien là-bas, et a tendu un traquenard. Donc, comme de toute façon les terroristes sont très bien armés, eh ben, il y a eu 33 morts côté militaire, il y a eu 500 morts côté terroriste.
Ah,
c'est pas vraiment la même information. Et c'est ça qui m'agace. Le fond des informations qu'on nous donne n'est pas faux, mais c'est tronqué, c'est partial, c'est partiel. Et du coup, les gens viennent me voir affolés, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas te faire enlever. Et quand je raconte ça là-bas, ils sont tous mais morts de rire, hein, mais morts de rire.
En fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est la manière d'appréhender les choses en direct et de bien connaître. Donc, vous arrivez à garder un regard quand même objectif par rapport à ce pays que vous aimez beaucoup, qui vous a donné la nationalité. D'ailleurs, ils vous ont donné aussi un surnom.
Nabanzanga, celui qui veut tout connaître, celui qui veut tout savoir, parce que c'est vrai que je pose des milliards de questions. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis quand même relativement bien documentée, parce que j'ai tout un tas de personnes qui peuvent me renvoyer les informations. À commencer par mon chauffeur, qui a 21 frères et sœurs. Bon, il y a 4 mères. Hein. 21 frères et sœurs, mais dedans, il y en a un qui est gendarme à la présidence, il y en a deux qui sont sur le front, dont un dans le renseignement, il y en a un qui est forestier, sachant que ce sont des militaires, ce qui fait que quand on doit aller quelque part ou que j'ai besoin d'une explication, ben, c'est le premier à qui je demande. Après, je vais voir d'autres personnes pour confronter toutes ces informations.
Et donc, vous avez aussi, vous parliez d'amitié. Je pense qu'il y a tout un côté qui est convivial, de prendre le temps, de se poser, de palabrer, comme on peut le dire, pour nouer des contacts avec les gens. Vous n'arrivez pas dans votre voyage, je pense que vous le préparez, ça c'est sûr, mais vous n'arrivez pas et vous ne vous posez pas à un endroit, vous rencontrez beaucoup de gens.
Voilà, de toute façon, déjà, un voyage là-bas, une mission là-bas, c'est 2 à 3 mois de travail. Prendre des contacts, voir quels sont les impératifs, etc. Et j'y vais. Il ne faut pas oublier que je suis présidente des 2 associations, Toriyaba et Synergie. Et Synergie, j'ai 38 associations adhérentes au Burkina. Donc ça me fait un maillage de renseignements extraordinaire. Et dans la mesure du possible, j'essaye d'en voir une bonne partie. Comment ça va? Comment va la famille? Est-ce qu'il y a du neuf dans ton association? Etc.
Et vous arrivez à en rencontrer des nouvelles par ricochet par...
Exactement, exactement. Là, il y en a une qui vient de rentrer, c'est un autre qui l'a amenée. Et à chaque fois, je leur demande aussi, montrez-moi quelque chose de nouveau. Alors, ça va être des tisseuses qui ont une technique un peu particulière, ça va être des bâtiments que je ne connaissais pas, qui sont anciens, etc. À chaque fois, j'essaye de voir quelque chose de nouveau, que je puisse, que je veux éviter la routine. Voilà.
Donc nous allons détailler effectivement plus ce que font chacune des associations, mais auparavant nous prenons le temps d'une pause musicale avec 54 Africa.
From the dust of Africa he rose, not of gold, not of greed, but of dignity. Born in a small town, Yako, a boy with fire, truth as his guide. Not raised in palace, not dressed in crown, but carried the strength of the common ground. Soldier by training, but thinker in mind. Saw the chains they left behind. Colonial shadows still holding his people tight. So he stepped forward, ready to fight. Not for riches, but purpose. Not for fame, but justice. They call it Upper Volta back then, a name not chosen by the people. He rise up strong in 1983, said this land must be free. Burkina Faso, he renamed the place, land of upright people, dignity, grace. No more bowing to outside control. Self-reliance was the goal. Stand firm, Africa. Don't bend. Know yourself. Break the trend. From the soil, from the people call. Rise again, never fall. And shattered the yoke. No big man living above the rest. He wore simplicity like a vest. Gave power to women, equality, equal rights, strength and grace. Children vaccinated against disease. Poor people given the chance to school.
Bien, nous sommes sur Agora Côte d'Azur et nous poursuivons le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir aux associations humanitaires Toriyaba et Synergie Burkina, en compagnie d'Anne-Lise Chalamon. Donc, dans une première partie, on a fait un petit peu le tour de ce qu'est le Burkina Faso, quelles sont ses caractéristiques géographiques, historiques, politique également? Quels sont, je dirais, les domaines dans lesquels, effectivement, il y aurait pour des associations européennes un intérêt ou un objectif à venir collaborer avec elles? Nous avons ensuite vu ensemble de quelle manière, effectivement, instaurer ce genre de contact, ce genre de partenariat. J'aimerais maintenant qu'on rentre davantage sur ce que sont les deux associations dont vous êtes présidente, Toriaba et Synergie Burkina. Est-ce que, on va commencer par Synergie Burkina, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails pour nous expliquer son fonctionnement?
Alors, Synergie Burkina, c'est une association que je n'ai pas nécessairement voulu. Quand j'ai quitté le travail que je faisais au consulat, j'ai envoyé ma démission proprement à tout le monde. Et il y a pas mal d'associations, y compris au Burkina, ici, qui disent « Mais tu es en train de nous abandonner. » Moi, je ne comprenais pas. Je dis « Oui, qui est-ce qui va nous faire travailler ensemble ?» Et là, ça fait tilt en disant « C'est vrai que les associations elles-mêmes, elles se gèrent, mais elles sont souvent très isolées. Et comment on peut parler ensemble, partager les problèmes, etc. » Et avant le Covid, il y avait autant d'associations en France, j'en avais même une en Suisse, qu'au Burkina Faso. Le Covid a complètement bouleversé la donne. Déjà, il y en a 4 chez nous qui ont arrêté. Il y a eu beaucoup d'arrêts. Les associations fragiles en France ont tout arrêté. Et au même moment, ben, j'avais plein de demandes au niveau du Burkina Faso. Alors, il a fallu trier. Si tu viens pour avoir des subventions, je te dis tout de suite, il n'y en a pas. Nous, on ne vit que des cotisations des membres. Et puis, eux-mêmes, de toute façon, au Burkina, ils font le tri. Hein, je ne t'ai pas présenté un tel parce que, de toute façon, il était trop intéressé, etc. Et du coup, actuellement, j'ai 17-18 associations en France et j'en ai 38 au Burkina. Et on l'ouvre aussi aux particuliers, notamment les artistes. Les artistes qui ont rarement une association et pour lequel c'est très très dur puisqu'il n'y a plus de touristes en ce moment.
Donc là, vous servez d'intermédiaire pour les aider à déboucher sur le marché européen.
Voilà, ben, par exemple, Toriyaba organise tous les 2 ans une exposition d'art avec des peintures, des batiks, des bronzes, sculptures sous bois, etc. Certains en dépôt-ventre, d'autres on les achète. Et c'est pour pouvoir les faire connaître. Et en ce moment, sur le site internet de Synergie Burkina, je suis en train de travailler sur des portails qui vont mettre en valeur chaque artiste. Donc je suis en train de les cuisiner. Comment t'es venue la peinture, comment tu travailles, quelles sont tes sources d'inspiration. Et il y a vraiment plusieurs pages. Et à partir de ce portail, il va y avoir quand même une résonance beaucoup plus importante qu'un petit groupe Facebook ou une page Instagram sur leurs œuvres.
Alors, quels sont les critères justement qui vont faire que vous allez accepter ou pas la collaboration?
Alors déjà, les associations sur place font quelque chose. Il faut savoir que le conseil d'administration de Synergie est entièrement franco-burkinabé. Je suis présidente, j'ai la double nationalité. Ma trésorière, elle est blanche comme moi, mais elle s'appelle Wedraogo et elle a la double nationalité. Le secrétaire est à Ouagadougou. Donc, je veux dire, on travaille par WhatsApp, par visio. On est 6 en tout. Mais on travaille vraiment sur un plan total d'égalité. C'est pas très simple parce que vraiment, on a une culture où on a tendance à se croire supérieur aux gens là-bas. Hein. Les Français, enfin les Blancs, ils savent tout. Et le Burkinabé, ben lui, il a tout à apprendre. C'est faux, parce que dans mon conseil d'administration, j'en ai une qui est financière à l'ONG Hélène Keller, il y en a un qui est major, c'est-à-dire infirmier-chef. Ce sont des gens qui ont fait des études. Et à partir du moment où on connaît un peu la culture burkinabé, on travaille d'égal à égal. Et eux osent dire, non mais Anne-Lise, là, t'as tout faux, t'as rien compris à ça. Donc on va te faire des suggestions. Et ça, j'aime beaucoup. Justement, c'est pas, il n'y a pas un dominant-dominé, il y a vraiment un partenariat gagnant-gagnant.
Alors, quelles sont les associations, justement, au Burkina qui travaillent avec Synergie Burkina?
Vous avez tous les critères. Alors, par exemple, nous avons 6, alors on appelle ça CSPS, c'est des dispensaires et qui sont associatifs. C'est-à-dire qu'une association se crée avec un quota minimum de gens qui ont des diplômes dans la santé. Et ils demandent la permission au ministère de la Santé d'ouvrir un dispensaire qui est privatif. J'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils font du social. Ils sont très peu payés parce que les gens, ils viennent, ils payent. C'est pas l'État qui les paye. Mais ça me permet de beaucoup travailler avec eux pour, par exemple, on parlait tout à l'heure des trieurs d'ordures. Les trieurs d'ordures sont dans un état épouvantable. Et j'ai été voir un de ces dispensaires en disant, s'il te plaît, je te paierai. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir toutes les semaines un infirmier qui va les voir parce qu'ils ont des problèmes pulmonaires, il a fallu faire une campagne de vaccination contre le tétanos, etc. Et la responsable, qui se prénomme Komala, a dit « Je ne veux pas que tu payes parce que vous nous aidez déjà énormément. » Donc, ils auront la consultation cadeau. Et elle s'est aperçue qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter les médicaments. Donc, Toriyama finance deux fois par an toute une réserve de médicaments qui reste à ce dispensaire pour les trieurs d'ordures. Voilà, c'est toute cette synergie, justement, qui se fait entre Toriyama, entre d'autres associations, etc.
Donc on va reparler de Toriyama et de ce que vous faites un peu plus tard. Vous avez donc les dispensaires. Quel autre type d'association vous avez ?
Alors, il y a les dispensaires. Il y a tout ce qui a trait à la formation, au parrainage, qui travaille en général en symbiose avec une association à l'étranger. Hein, ce n'est pas qu'en France. Mais qui s'occupe des enfants parrainés, qui assure un suivi, qui donne des cours du soir, quelquefois gratuitement, parce que les enfants ont des parents qui ne parlent pas français, qui n'ont jamais été à l'école. Et ces enfants, ils sont en échec. Il ne faut pas oublier que les classes là-bas, une classe de moins de 100 élèves, eh ben c'est assez rare. Hein, j'ai connu des 160. Oui. Et l'instituteur avait des valises sous les yeux. Je lui ai dit, mais tu fais quoi de tes nuits ? Il m'a dit, tu as essayé de corriger 160 cahiers de maths. Voilà, donc il y a tout. Il y a le social, il y a l'humanitaire, il y a les artistes, la santé, il y a les filles mères, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les mendiants, les garibous, il faut leur donner à manger. Ça, ce sont des associations sur place qui le font. Et nous venons en appui depuis la France. Avant, ce n'était pas du tout comme ça, ce que j'appelle l'humanitaire à la papa, hein, où on arrivait dans un village, « Oh, les pauvres femmes, elles sont obligées de faire un kilomètre pour aller chercher de l'eau. » Tu leur as demandé si elles n'étaient pas ravies de plus avoir le mari sur le dos et d'être se retrouver entre elles. Et il y a eu une fois une association en larmes qui m'a téléphoné parce qu'ils avaient construit un forage. Un forage, c'est très cher là-bas parce qu'il y a une croûte de latérite à percer qui est très forte, qui est très dure. Et ils ont fait un forage de quand même 8000 euros. C'était à côté de la concession du chef coutumier qui préférait avoir l'eau courante et voir ce que faisaient ces femmes. Et c'est là où elle était en larmes en me disant bah oui, on s'est fait avoir. Comment il faut faire ? Et je leur ai dit mais apprenez à les connaître. Hein, va boire la bière avec les paysans ou avec les gens du coin pendant 2 ans et après tu verras que le forage ça les intéresse pas. C'est peut-être une école qui les intéresse. Elle m'a dit mais j'ai pas le temps. Eh bien, faut le prendre. Sinon, on n'est pas sérieux.
Je crois que vous travaillez également avec des associations ou des groupements de micro-entreprises qui sont développés là-bas, en particulier avec des femmes.
Oui, alors, il y a beaucoup de micro-crédits. Il faut savoir que les micro-crédits est une idée merveilleuse, mais elle est à double tranchant. Je vais donner, par exemple, 50 euros à cette femme qui est veuve et qui veut cuisiner avec ça tous les jours et vendre. Bon. Et elle le rembourse petit à petit. Problème, une de ses filles tombe malade. Les médicaments coûtent très cher. Donc, elle va prendre l'argent dedans. Et après, elle sera dans l'incapacité de rembourser. Donc, c'est à double tranchant. Mais là-bas, beaucoup d'associations me disent, financées par des gens en Europe, on préfère prêter aux femmes qu'aux hommes. Parce que les femmes sont très dures entre elles et elles sont beaucoup plus sérieuses. Oui, il y a des microcrédits, mais c'est des tout petits. Hein. Je vous dis, 50 euros, c'est une moyenne. 50, 100 euros, c'est une moyenne.
D'accord. Donc tout ça, c'est Synergie Burkina qui fédère un peu ces associations. Et j'aimerais qu'on en vienne maintenant à Toriyama, justement. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce cadre-là ?
Alors, Toriyama, c'est une association qui va fêter ses 10 ans l'an prochain, en 2000.
Une question, Toriyama, qu'est-ce que ça veut dire ?
Toriyama, alors, ça veut dire l'entraide, s'entraider. Et c'est dans une des langues du Burkina, une langue de l'Est, qu'on appelle le Gulmandshema. Alors, pourquoi là-bas ? Hormis le fait qu'on parraine des enfants dans cette zone-là, c'est surtout que c'était le seul qui était prononçable pour des Français. Les autres, ils m'ont dit, on voulait la notion d'entraide. Et puis, quand on a demandé à tous les copains, ils ont dit, non mais attends, mais même moi, j'arrive pas à prononcer. Donc, on a pris Toriyama, qui fait un peu japonais, parce que Toriyama existe au Japon. Mais en fait, c'est ça, c'est facile à prononcer, et c'est l'entraide, et ça correspondait à ce que l'on voulait.
Donc, entraide,
s'entraider.
Voilà. Et donc, quels sont les cibles ou les objectifs que vous avez en termes d'entraide là-bas ?
Alors, on est parti, quand on a voulu la créer, on voulait aider les personnes les plus vulnérables. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tellement besoin de nous. Ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes, mais c'est une habitude de demander au blanc, parce que le blanc, il sait tout et il a de l'argent. Donc, les personnes les plus vulnérables, ça a été le premier projet, l'association SOS Filles-Mères, qui s'occupe justement de recueillir ces petites qui sont fichues à la porte. La responsable, Clarisse, qui est venue d'ailleurs devant vos micros.
Oui. Il y a quelques années, effectivement.
Voilà. Elle a calculé, elle en a comme ça sauvé 217. Alors, ça a commencé dans son garage. Et puis, au bout d'un moment, il y en avait trop. Et maintenant, donc, il y a un centre. Il y a même un double centre où, d'abord, elles sont bien. Elles sont respectées. Tous les enfants vont à l'école. On leur apprend à lire et écrire. Et là, Toriyaba finance la nourriture par trimestre, le salaire du gardien. Parce que la nuit, il faut quand même quelqu'un qui veille au grain, parce que ce sont des jeunes avec des tout-petits. Et le salaire du tailleur, un tailleur qui vient et qui leur apprend à coudre. Et nous prenons les jolies petites robes qu'elles font, les ensembles pour garçons, en dépôt vente ici. Samedi dernier, on avait un vide-grenier, on a vendu une robe, je l'ai signalée à la présidente en disant « je vais t'envoyer l'argent ». Voilà.
Vous intervenez également au niveau du triage des ordures, vous en avez déjà dit deux mots.
C'est ça. Ça, c'est dans la deuxième ville, c'est à Bobo-Dioulasso. En fait, c'est un ami qui dirige une association qui me dit « Bien, je vais te montrer quelque chose ». Et j'arrive, mais 20 hectares d'ordures, ça prenait à la gorge. C'était toujours en train de fumer. Hein, il y avait de la fumée, un peu de feu. Et là, il y avait, alors je crois qu'en tout, il y a 200 personnes. Mais des bébés, des enfants pieds nus, des femmes enceintes, un bébé qui se trouve simplement sous un tissu pour le protéger des moustiques, etc. Et il trie les ordures. Qu'ils revendent à des revendeurs où ils se font avoir comme en beauté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'un côté la ferraille, il y a le plastique, il y a les vieilles chaussures, il y a le bois. Et j'ai vu les revendeurs qui arrivent avec une balance romaine. Hein, ces balances qui sont interdites en France tellement elles sont peu précises. Et je vois une femme qui arrive avec un plastique et dedans il y avait plein de plastique. Et il le pèse et il dit « Ah ma fille, il n'y a pas un kilo, donc je prends mais tu n'auras rien ». Et moi ça m'a révoltée. Donc la première chose qu'on a amenée à l'association qu'on a créée sur place, c'est des pesons de voyage. Hein, où là, c'est au gramme près. Donc, ils m'ont raconté que le gars arrive avec sa balance romaine et il pèse. Ah oui, mais il n'y a pas un kilo. Et après, il dit, ça ne t'embête pas, mais on va vers de notre côté. Tu vois qu'il y a un kilo. Et alors là, il n'ose plus rien dire. Et la femme, elle peut repartir avec un peu de sous dans la poche. Ça a été la première aide. C'était rien. Mais moi, ça m'a révolté que ces gens-là en profitent. Toute la journée, elles trient dans les ordures. Elles sont pieds nus. Enfin, voilà. Alors, il y a eu ce côté-là. On envoie des chaussures, des vêtements, etc., qui sont distribués par l'association intermédiaire. Déjà, il y a au moins 5 ou 6 langues. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Personne ne parle français. Donc, on envoie, non pas à eux, mais à l'association intermédiaire qui va là-bas, qui prend des vidéos, des photos pour montrer les distributions. Ce n'est pas facile. Sur les 200 personnes, vous avez des personnes pas faciles. On a eu affaire à 8-10 femmes que j'appelle les vipères. C'est-à-dire des jamais contentes, grande gueule, jamais contentes, et qui sont persuadées que moi je donne des millions à cette association, à celles qui les soignent, et qu'eux, ils ne veulent pas partager. Donc, elles font la fine bouche. Quand quelqu'un leur amène des vêtements et chaussures, « Oh ben non, ça, oui, non, la couleur rose, j'aime pas, etc. » Et elles se sont fait porter pâle pour les vaccins. J'étais hors de moi, mais là-bas, ils ont compris. Du coup, ils sont en train de choisir comme appui pour les femmes d'autres femmes qui ne la ramènent pas trop, mais elles ne vont pas avoir cette attitude. C'est pas facile de travailler avec les gens pauvres. Pas facile.
En France, de la même manière, c'est pas facile de faire travailler les gens. Je crois qu'il y a également des correspondances entre des classes, des écoles au Burkina et en France.
Oui, alors en fait, on discutait lors de marchés, parce qu'on fait les marchés, on ramène beaucoup d'artisanat que l'on vend dans des marchés nocturnes, des foires, etc. Et en discutant avec les adultes en France, on s'est aperçu de la méconnaissance qu'ils ont de l'Afrique, mais surtout cette espèce de voile qu'ils ont, de raciste, quelqu'un qui passe, qui dit ah, « ça c'est encore de l'art de négro », comme si on n'en avait pas assez en France. Donc on s'est posé la question, comment on va faire ? Eh bien, on va revenir par les enfants. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, petit à petit, 11 correspondants scolaires, et avec des enseignants en France. Alors, il y en a 2 à Saint-Vallier, 7 à Villeneuve-Loubet, 1 à Figanière, c'est un collège, et 1 dans les Landes. Cherchez pas, c'est toute une histoire, on fait ça par correspondance. Et pour trouver les enseignants au Burkina, eh ben, on a pioché dans les associations de Synergie Burkina. Tout simplement. Comme ça, on se connaissait. Et depuis, j'aimerais bien réduire un peu parce que c'est très lourd à gérer, mais pas question, ils y tiennent trop. Ça fait 10 ans quand même qu'il y a ces correspondances. Et donc, du coup, avant de partir, je vais chercher le courrier, ou on me l'envoie parce que les Landes, je ne vais pas là-bas. Je vais chercher le courrier, et le problème, c'est qu'il me faut presque une valise entière, parce que ce n'est pas 3-4 pages. C'est, ah mais il y a ça comme cadeau, ah ben il y a ça qu'on a fait, ah, ben, c'est énorme. J'en dis, vous ne pourrez pas un peu réduire. Je vais là-bas, je fais le tour, je préviens, je fais le tour de toutes les classes, et là-bas, ben, il me donne aussi le courrier. Ah mais il y a des cadeaux, ah mais il y a un tissu. Je dis, mais je ne vais jamais m'en sortir, moi, avec tout ça. Et en revenant en France, je refais le tour de toutes les classes pour pouvoir amener le courrier, montrer des photos, montrer des objets du quotidien, etc. Et il y en a quelques-uns. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Avoir récemment rencontré un universitaire à Nice, et qui est venu voir un professeur en disant, comment ils vont là-bas ? C'était un ancien élève de primaire qui avait correspondu, et ça lui était resté dans la tête.
Alors, on va voir un peu plus en détail comment se passent les missions que vous faites là-bas, puisque c'est vous-même qui allez à répétition, plus de 44 missions vous avez fait. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont perçus justement Toriyaba et Synergie Burkina sur place ? Alors, pas seulement par les associations avec lesquelles vous interagissez, qui vous voient certainement positivement, mais également avec les autorités, éventuellement d'autres personnes qui vous voient de loin et peut-être pas forcément d'un bon œil.
Alors déjà, en février dernier, on fait toujours des rencontres. Je fais des rencontres là-bas parce qu'il faut bien se rencontrer à Synergie dans 3 villes. Et là, j'ai voulu faire une rencontre unique. J'espérais qu'on serait une quarantaine. On était entre 60 et 70. Il y a eu un engouement, mais complètement délirant. Et je me suis aperçue que les gens avaient besoin de parler entre eux. Et il y a quelques fois où ils s'adressent à moi dans leur langue. Parce qu'ils passent au-dessus de ma couleur de peau. C'est-à-dire qu'en fait, je suis complètement rentrée...
Intégrée, mais vous êtes burkinabé.
Voilà, mais ça ne s'écrit pas sur mon front. Et le membre d'honneur de Synergie, c'est le maire de Ouagadougou, que je vais voir à chaque fois, et qui me renseigne beaucoup sur ce qu'il a le droit de dire, bien sûr. Hein. Donc, en général, il n'y a pas de problème. On ne peut pas aller facilement au Burkina en ce moment. Il y a un bisbille entre les deux gouvernements, hein, le gouvernement français et le gouvernement là-bas. Moi, j'y vais facilement parce que j'ai le passeport. Et quand je vais dans un endroit, quelquefois, je suis la seule blanche à 50 km à la ronde, et les gens me disent « Ah, toi, t'as pu venir. Mais pourquoi on voudrait vous enlever ? La France, c'est notre grand frère depuis tellement longtemps. » Alors, je ne dis pas que vous allez voir des étudiants très marqués politiquement, qu'ils ne vont pas m'envoyer bouler, ou alors dans des zones pas très, très bien fréquentées, je ne risque pas quelque chose. Il ne faut pas rêver, comme en France d'ailleurs. Hein. Mais globalement, non. Globalement, non. Et le drame, c'est que justement, il n'y a plus de visa pour les Français pour aller là-bas, puisqu'il n'y a plus de visa pour les Burkinabés pour aller en France. Et le problème, c'est que c'est tous des humanitaires. Et mon drame, c'est que des associations sont en train d'arrêter. On ne peut plus y aller, ben j'arrête.
D'accord. Bon, ceci étant, pour vous, ça marche. Et justement, entre la France et le Burkina et la France, vous échangez, vous envoyez différents matériels, produits dont ils ont besoin là-bas ou qu'ils produisent. Comment ça se passe là ?
Voilà, alors tous les ans, avec Toriyaba, nous organisons un envoi par conteneur, et les destinataires de tous ces envois, il y en a jusqu'à 25, ce sont les associations de Synergie. Pourquoi ? On se connaît. Donc, il n'y a pas de risque. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, s'il y en a un qui s'amuse, il ne va pas s'amuser longtemps, crois-moi. Alors, on envoie, ben, par exemple, du matériel de mercerie, etc., aux filles mères. Mais la présidente des SOS filles mères, elle est au conseil d'administration de Synergie Burkina. On envoie beaucoup de matériel médical à tous les dispensaires associatifs qui font partie de Synergie. Comme ça, on sait que eux, comme on les connaît bien, ils ne vont pas s'amuser à revendre et se mettre les sous dans la poche. C'est des histoires de confiance réciproque. Donc on envoie du matériel médical, aussi bien des compresses que des fauteuils roulants. Ce matin, on m'a donné encore un fauteuil roulant. On envoie des vêtements et des chaussures, surtout pour les trieurs d'ordures. Mais aussi, Toriyaba lutte pour que les gens ne tombent pas dans la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on a créé, par exemple, une bibliothèque de rue et qui marche tellement bien que là, on est en train d'envoyer les sous pour avoir sa jumelle de l'autre côté du bâtiment, pour que les enfants puissent travailler, etc. D'autres associations sont mises également à envoyer des livres. On aide aussi un lycée professionnel qui, 2000 élèves, qui forment au bac pro en cuisine, pâtisserie, restauration, couture, coiffure, etc. Parce que le jour où ils m'ont montré leur placard très fier de la vaisselle qu'ils avaient, j'ai failli pleurer, j'en ai plus chez moi. Donc, quand il y a une personne qui décède où on nous donne toute la vieille porcelaine, etc., dont personne ne veut, ben, on l'envoie là-bas pour qu'ils ils puissent dresser, apprendre à dresser des très belles tables. Voilà. Et à chaque fois, quand je vais là-bas, je me rends chez chacun qui a reçu. Est-ce que c'est bien arrivé? Il n'y a pas eu trop de casse? De quoi vous avez besoin de matières spécifiques, etc. Donc, Toriyaba et Synergie, c'est complètement imbriqué.
Et en retour, qu'est-ce que vous faites venir comme produit du Burkina?
Alors, il faut faire connaître le Burkina Faso. Il faut savoir que le Burkina Faso est au centre de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que toutes les cultures, tous les savoir-faire de tous les pays environnants, vous trouvez tout au Burkina Faso. Il y a une richesse dans l'artisanat et l'art qui est extraordinaire. J'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Bénin, je n'ai pas trouvé à ce point-là. Donc, on ramène, puisqu'on a des artistes hein, dans Synergie, donc c'est auprès d'eux que l'on va faire nos commandes. Je fais les commandes à l'avance par WhatsApp. Ben, écoute, quelqu'un m'a demandé un bronze de 23 cm d'une maman avec deux petites filles. Pas de problème, j'arrive, je le prends. Maroquinerie, le textile aussi, tous les produits de charité qui ont énormément de succès. Produits de charité, Toriyaba, on vend jusqu'à 6000 euros par an. Or, nous faisons des prix petits, puisque là-bas, les prix sont très très petits. Même en multipliant par 4, on frise le ridicule. Ce qui fait que ça se vend très très bien.
On pourrait développer, ce serait passionnant de vous écouter. Je voudrais vous poser une question avant qu'on passe à la pause musicale. Vous avez fait 44 missions. Qu'est-ce que vous découvrez de neuf encore aujourd'hui?
Mais je dirais tout. Parce que, par exemple, on va me présenter une nouvelle association. Bon, j'aime bien prendre mon temps. Hein. On discute, on prend la bière, on discute, etc. Et puis, au bout d'un moment, la personne me dit son nom et son nom de famille. Ah, tu es de quelle ethnie? Je suis de telle ethnie. Ah, mais je ne la connais pas. Donc, ou très peu. Donc, tu vas m'apprendre ton ethnie. Et là-dessus, on se revoit, pas tellement pour l'association, mais moi, je veux beaucoup savoir sur son ethnie. En ce moment, je suis en train de travailler avec un jeune Touareg. Qu'est-ce qu'on sait de la vie des Touaregs, des traditions des Touaregs dans le Sahel? Donc, on a fait tout un article sur ses souvenirs. Comme ça, personne ne peut dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont ses propres souvenirs. Et là, on fait un deuxième article qui est en ligne sur les objets du quotidien. Comment on le dit en tamashek, comment ils sont fabriqués, etc. Nabangzanga. Donc, voilà. Et il y en a un autre qui est d'une autre ethnie où je dis, attends, ne bouge pas, je vais t'apprendre. Et quelquefois, c'est une connaissance qu'on fait par WhatsApp, parce qu'on travaille énormément sur des groupes WhatsApp, où je prends rendez-vous en disant, bah, écoute, ce que tu dis, ça m'intéresse, prochain voyage, on se voit, et voilà, je veux que tu m'apprennes telle chose, que tu me montres telle chose, etc. Non, à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau.
Eh bien, merci beaucoup. On va prendre le temps d'une troisième pause musicale avant de conclure notre émission.
Ame bilan, jisini lone Ibi ele mongo dona Ona kile masa bunyuma Dunya bejeni Tegele me mongo dona Ona kima sabunyuma Dunya bejeni Dabe yele la lomino Dabe kasi wolonde la Dunya bejeni
émission Parlons de droits humains, consacrée effectivement au Burkina Faso et à l'aide humanitaire dans ce pays. Merci Anne-Lise d'être toujours en notre compagnie. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la chanson que nous venons d'écouter ?
Alors c'est Diumaya de Victor Démé, c'est une de ses premières chansons où il parle du mépris, qu'il ne faut pas mépriser l'autre.
Très intéressant. Donc, en conclusion de cette émission, nous, ce qu'on voulait évoquer, c'est « et après ». Vous en avez survolé un petit peu la thématique en indiquant que la relève serait difficile. Il y a un fort investissement de votre part, des réseaux implantés, mais qui repose effectivement beaucoup sur vous et sur les liens que vous avez tissés. Et après vous, qu'est-ce qui va venir de ces associations, à la fois du côté français et du côté burkinabé ?
Alors, en Burkina, on m'a déjà posé cette question. J'essaye de les autonomiser au moins par ville, là-bas, mais il n'y a rien à faire. Ils aiment beaucoup, au Burkina, je parle, avoir quelqu'un qui donne un peu le top de départ. Et moi, je suis quelqu'un d'assez fataliste. J'ai trop vu d'associations en France qui partent en eau de boudin parce qu'il y a un président qui n'a pas voulu partir, parce qu'il n'y a pas eu de relève, alors tout le monde se renvoie la balle, etc. Personne n'est irremplaçable. Dans les cimetières, il y a plein de gens irremplaçables. Donc, je pense que si pendant 10 ans, 15 ans, on a fait un bon boulot, eh bien, ça sera 10 ans, 15 ans qu'on aura fait pour des personnes et à d'autres de prendre la relève. C'est pas forcé que ça soit quelqu'un qui reprenne l'association. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Et elle fera ce qu'elle veut. Mais c'est très compliqué. Je m'en aperçois. Je vous parlais qu'il n'y avait pas de relève. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais là-dessus, s'il faut fermer, ben on ferme. Le jour où je ne pourrai plus, je le dirai très franchement.
Et avant d'envisager la relève, est-ce qu'il y a des petits projets qui vous permettent effectivement de dire que vous continuez à développer ces deux associations ?
Il y a des projets, il y en a tout le temps. C'est ça le problème, il faut presque les refuser parce que ça devient un peu compliqué. Je dis souvent qu'en Afrique, le plus dur, c'est d'apprendre à dire non. Après, j'essaye de sous-traiter. Il y a des choses, moi, je ne peux pas forcément les faire, je ne suis pas sur place, mais j'essaye de refiler le bébé à des associations qui sont sur place et dont c'est les compétences. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-vous à deux ou trois et est-ce que ça, vous ne pouvez pas le gérer entre vous? J'essaye de leur faire comprendre là-bas que, comme les associations ferment en France, comme en Italie, etc., pour des raisons d'âge, faut arrêter d'aller chercher les subventions là-bas, mais de chercher les subventions endogènes. Et il y en a. Et j'ai quelqu'un qui m'a fait sur place un gros dossier pour où est-ce qu'on peut trouver sur place.
Donc en fait, ce serait presque une synergie Burkina sur place.
On est en train de monter l'association au Burkina Faso, Synergie Burkina. C'est une même association, mais avec deux pôles différents.
Donc c'est un point très positif pour l'avenir et pour le futur de vos associations à qui on souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Et nous indiquons à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter cette émission soit en la téléchargeant, soit lors d'une prochaine diffusion qui aura lieu lundi au début juillet. Et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre pour notre prochaine émission Parlons des droits humains. Bonsoir et merci à tous.